peux tourner les pages devant le micro, c'est bien. Journal de bord. Biennale des écritures du réel. Dimanche 16 mars. Ce n'est pas un hasard. Ryoko Sekoguchi.
Je commence par la veille. Le 10 mars 2011. J'achève un échantillon de traduction du livre d'Emmanuel Carré, D'autres vies que la mienne. Je ne suis pas mécontente du résultat. Le 11 mars, vers minuit, j'ai une conversation téléphonique avec Jun Ishii, un ami japonais dont je viens de relire une traduction. Brève séance de travail, il me demande si j'accepterai de lui rapporter un foulard Hermès pour sa compagne quand je viendrai au Japon début avril. On ne trouve pas ce modèle ici. Je te rembourserai. J'accepte, bien sûr. Je lui demande de m'envoyer une photo et le nom du modèle. Vers 8 heures du matin, j'allume mon ordinateur. Je trouve un mail de cet ami avec la photo du carré Hermès Pégase. Je consulte en même temps, comme d'habitude, le Facebook japonais. Les commentaires parlent d'une grosse secousse sismique. Dis donc, ça a secoué aujourd'hui. Toutes mes bibliothèques se sont renversées. Il va m'en falloir du temps pour ranger tout ça. Une secousse forte, certes, comme on en a deux ou trois fois par an, mais rien d'alarmant. Je vais tout de même appeler mes parents pour prendre des nouvelles. Je suis sûre qu'ils vont me rassurer, sans doute même plaisanter sur ce qui vient de se passer. Ça ne répond pas. Ils sont sans doute sortis. J'appelle sur leur portable respectif. Pas de réponse. Cela m'agace un peu. Ma mère a la fâcheuse d'habitude d'oublier d'activer sa boîte vocale et elle ne répond pas toujours sur son portable. Mon père doit être encore au travail. Je rappelle ma mère. C'est impossible. Une telle inattention. Comme je lui dis toujours, si tu oublies d'activer ta messagerie, je ne pourrai pas te laisser de message, au cas où. Je n'avais pas encore compris que ce jour-là, c'était justement l'occasion. J'appelle en continu pendant une demi-heure, sans succès. Chez mon frère, non plus. Je commence à m'inquiéter. Je leur écris un mail collectif. Je comprends enfin que si ça ne répond pas, ce n'est pas que ma mère a égaré son portable, mais que la ligne est saturée. Un appel. Je décroche. Un ami français. Je suis devant la télé, il me dit. Les tsunamis sont impressionnants. Là, je m'emporte. Trois heures plus tard, j'ai enfin ma mère au téléphone. Elle va bien, mais elle est sans nouvelles de mon père. Okai, un ami au Japon, s'inquiète des centrales nucléaires. Je lis son commentaire sur un site et me mets à consulter les pages spécialisées. Jusqu'à là, personne autour de moi n'avait fait allusion à ce risque, tant on était captivé par l'image du tsunami. Quand j'y repense, ce premier jour, jusqu'en fin d'après-midi, la plupart des Japonais ont cru avoir affaire à une catastrophe naturelle, du type de celle qu'ils avaient déjà vécue, même si la puissance du tsunami était incomparable. Pourtant, ce n'est jamais la même chose. Même si l'on en a déjà vécu d'autres, toute catastrophe est sans précédent au moment où on la vit. Et cette fois-ci, je crains que ce ne soit plus vrai que jamais. En entrant, je regarde en boucle sur mon ordinateur la chaîne NHK, chaîne d'information par excellence dans ce genre de situation. Alors, je commence à prendre conscience de l'énormité de la catastrophe. Le soir, j'invite des amis à se réunir chez moi. Mieux vaut être à plusieurs, ne pas rester chacun dans son coin à envisager le pire. Plus on est loin, plus l'imagination s'emballe. Nous sommes à 7, collés au site de NHK. Parmi mes amis, Certains n'ont toujours pas réussi à joindre leur famille. Chaque fois que la télévision annonce une nouvelle réplique, un départ d'incendie, l'un d'eux décroche le téléphone. En vain. C'est alors que je suis saisie par une étrange sensation. J'ai déjà vécu ça. Je me souviens.
Mon frère et moi étions restés jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à regarder brûler la ville de Kobe, rongée par les flammes comme après un bombardement. Je me souviens.
Je me souviens.
J'étais collégienne quand un quartier de l'île de Miyake fut détruit par la lave à 70%. Je me souviens aussi d'un tremblement de terre dans la région même qui est touchée aujourd'hui.
Je me souviens.
Tant d'images me reviennent, de tremblements de terre et de typhons, que je ne parviens plus à les distinguer. Les images se superposent les unes aux autres, et tout à la fois ce sont et ce ne sont pas des images. Lorsqu'on est concerné, l'image n'est pas une image, c'est la réalité. Mais quand on n'est pas directement touché, l'image conserve en quelque sorte son statut d'image. Et ce sont ces réalités-images qui nous assaillent chaque fois que le Japon est victime d'une catastrophe, et qui se superposent devant nos yeux, comme nous sommes rivés devant la télévision.
Et ce sont ces réalités-images qui nous assaillent chaque fois que le Japon est victime d'une catastrophe, et qui se superposent devant nos yeux quand nous sommes rivés devant la télévision.
Quelle mémoire de Fukushima! Ce n'est pas un hasard. Rencontre avec Ryoko Sekoguchi. Dimanche 16 mars, 15h-18h à l'Équitable Café. Journal de bord, Biennale des écritures du réel, 13 mars, 12 avril. Voir le monde avec les yeux des autres.
Voir le monde avec les yeux des autres.
Voir le monde avec les yeux des autres.
Avec les yeux des autres.
Voir le monde.
Avec les yeux des autres.
Voir le monde.
Le monde.
Avec les yeux des autres.
Avec les yeux.
Des autres.
Des autres.
Stieg Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux, du rationaliste, ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une parole tombe à mes pieds. Et, comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ?
Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi abandé. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacée par la mer, un récif de granit bien dur.
Pourquoi faut-il que sous mes doigts revienne la chanson qu'autrefois j'entendais à venir.
L'écrivain et la conscience de Stieg Dagerman. Samedi 29 mars, Théâtre de l'Anche. 6e opus des emporte-pièces. Journal de bord, Biennale des écritures du réel.
Je m'appelle Karine Fourcy, je suis metteur en scène de la compagnie Traversée Nomade, Frontières. C'est une troupe de jeunes gens entre 16 et 23 ans qui viennent de tout Marseille. C'est un projet qui a été mis en place par la Cité Maison de Théâtre qui m'a proposé de travailler avec ce groupe. Il y a un noyau dur, après il y a une rotation, il y en a qui sont partis il n'y a pas très longtemps, il y en a qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, mais il y a un noyau dur avec lequel je travaille depuis 2 ans. La pièce qui va se jouer est nourrie de des personnes qui sont passées. On a continué à chercher, d'autres matières sont arrivées. Donc il y a des matières qu'on a gardées, mais on a vraiment remodelé le travail aussi avec les nouvelles personnes. J'ai 6 ans et je rêve de vendre. Le thème général, c'est la frontière. C'est un thème qui est très vaste. Ce qu'on a vraiment travaillé, c'est la frontière intime, soi et l'autre, comment je vais à la rencontre de l'autre, comment je vais aussi à la rencontre de moi-même, c'est quoi mes frontières, c'est quoi les frontières dans l'espace avec l'autre. Je leur ai demandé, par exemple, d'aller à la rencontre de personnes vers lesquelles ils n'iraient pas forcément, et donc de voir ce qu'il se passait dans cette rencontre-là. Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que j'y arrive pas ? Et si j'y arrive pas, quelles questions cela me pose dans cette rencontre avec l'autre ? Qu'est-ce que je dépasse dans ma rencontre avec l'autre par rapport à moi et par rapport à l'autre ? Qu'est-ce que je n'arrive pas à dépasser ? Et si je n'arrive pas à le dépasser, voilà, quelles questions ça me pose ?
Alors voilà, je suis partie. Alors voilà,
Il y a eu des expériences qui ont été faites aussi dans la ville, dans la ville. Marcher dans la ville les yeux fermés, si on marche très lentement alors que le rythme de la ville est très rapide, qu'est-ce que ça fait d'aller jusqu'au métro et de mettre, alors qu'habituellement on met 5 minutes et là de mettre 1 demi-heure, comment j'arrive à trouver ce rythme-là, laisser passer le métro et ne pas le prendre. Enfin voilà, il y a des expériences comme ça qui se sont faites, d'aller répéter dans différents endroits de la ville, pas forcément dans des théâtres. Voilà, c'est ces expériences-là qu'ils ont traversées.
Ce corps me déstabilisait. Je ne le comprenais pas,
vous équilibriez.
Moi, ce que j'aime avec eux, en tout cas, c'est travailler à partir de leurs paroles, de leurs ressentis, des questions qui peuvent se poser, des miennes aussi, forcément, et de comment on peut mettre en scène cette parole-là. Et comment elle peut devenir fiction sur un plateau de théâtre.
Il n'y avait plus aucune distance entre lui et moi. Entre l'enfant que j'étais et la jeune fille que je suis devenue.
C'est vrai que la matière brute, il y a des improvisations, il y a beaucoup de choses que je note sur des cahiers. Il y a des enregistrements que je fais, soit des improvisations elles-mêmes, soit je pose un thème ou je pose une question et avec l'enregistreur, j'enregistre tout ce qui se raconte. Soit aussi dans les expériences qu'ils ont pu faire à l'extérieur, dans la rencontre avec d'autres personnes. Soit moi je suis allée avec eux, soit ils m'ont raconté ou je leur ai demandé d'écrire. À partir de ça, je prends toutes les matières et je réécris. Il y a certains textes que j'ai gardés, que je vais raccourcir parce que pour justement trouver l'essence même du texte. Et effectivement, il y a des dialogues qui sont faits par rapport à tous les enregistrements que j'ai.
Je suis heureuse d'être là avec nous. Et puis elle est partie.
La différence de chacun et la différence d'avis de chacun, c'est ça qui est une richesse et qu'il faut en profiter en fait de cette richesse-là pour ouvrir sa pensée, pour se remettre en question, pour réaffirmer peut-être sa position, mais en respectant que l'autre ait un avis différent de moi.
Souvent, je pense à elle.
Et oui, bien sûr qu'ils repoussent leurs frontières, je pense, dans le regard sur l'autre, le regard sur le monde autour de soi. Que quand on fait du théâtre, il faut regarder le monde autour de soi profondément. Dans la relation à l'autre, vivre en groupe, c'est pas anodin. Un collectif comme ça de travail, bien évidemment, on est obligé de se déplacer. Et chacun se déplace et continue à se déplacer, moi aussi d'ailleurs.
L'école primaire, on me disait que j'étais une indigène. Tout ça parce que j'étais brésilienne. On me disait qu'il fallait que je retourne dans mon pays, que j'avais rien à faire en France. Et je disais rien. J'ai commencé à en parler à mes parents quand j'étais en 4e. Je leur ai dit que j'étais pas très bien au collège. On s'était mis à me frapper, à me cracher dans les cheveux, à s'amuser avec mes affaires.
Je m'appelle Estelle.
Quel âge tu as ?
J'ai 21 ans.
Je m'appelle Sonia, j'ai 23 ans.
Je m'appelle Alice, j'ai 22 ans.
Je m'appelle Johan, j'ai 21 ans.
Je m'appelle Marie et j'ai 19 ans.
Je m'appelle Jean et j'ai 21 ans.
Depuis combien de temps tu fais du théâtre ?
J'ai commencé le théâtre en 2000. Et puis après, donc, j'ai repris il y a 4 ans avec Karine Fourcy dans le cadre de cette expérience qui était proposée par la Cité. Le Théâtre de la Cité, qui collabore depuis maintenant un bon bout de temps avec la compagnie Traversée Nomade, dont Karine est responsable.
Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Karine et le groupe ?
J'avais vu l'ancienne création de Karine, qui avait travaillé avec un autre groupe de jeunes qui s'appelait les Pas Communs. Et justement, dans ce travail, il s'interrogeait sur la relation adulte-enfant. Et j'avais beaucoup aimé l'univers de Karine. Et vu que je connaissais la Cité, que je connaissais Michel André, puisque j'ai déjà travaillé avec lui par le passé, je me suis dit pourquoi pas reprendre, c'est l'occasion.
Ce corps me déstabilisait.
Frontière, c'est... On peut le voir à un sens large, c'est-à-dire qu'il y a des frontières psychiques et des frontières physiques. Donc on ne parle pas forcément des frontières physiques, quoique dans le texte de Warda, par exemple, où elle évoque son passé par rapport à son enfance, par rapport aux Comores, et le fait qu'elle vienne en France. Donc c'est aussi une certaine frontière. Après, on parle, je pense, plus des frontières psychiques, c'est-à-dire des frontières, qu'est-ce qui nous pousse à aller au-delà de certains a priori ou de certaines pensées qu'on avait auparavant. Un thème assez bon et quelque chose qui peut nous faire grandir. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là, en fait, tous.
Petit à petit, j'ai compris que ce corps, c'était moi.
La contrainte, c'était de réussir à aller à la rencontre de personnes qu'on n'arriverait pas à aller voir en dehors de ce projet-là de théâtre. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs thèmes, sur ma relation avec mes parents, sur la relation que je pouvais avoir avec mon entourage, sur la féminité, sur le corps, sur plein de thèmes comme ça. Et grâce à cet espace qui m'a fait grandir, qui a fait évoluer ma pensée, qui m'a permis de m'émanciper aussi, j'ai une vision qui s'est élargie et dans cet espace, j'ai dépassé des frontières que je n'ai pas réussi à franchir en dehors de cet espace. Donc, c'est un cheminement, ça a pris du temps, ça fait maintenant 3 ans et demi que je fais partie de cette troupe. Je pense m'être déplacée sur ces sujets-là.
Entre l'enfant que j'étais et la jeune fille que je suis devenue.
Cette pièce, elle s'interroge vraiment sur le regard, moi je dis, sur le regard qu'on peut avoir sur soi, sur une personne, qu'on peut avoir sur nous. Après, on l'aborde différemment, certains. Et voilà, moi c'est ça qui me saute aux yeux. Voilà, moi dans le spectacle, je porte une jupe à un moment donné et j'interroge sur ça. Pourquoi un garçon, il ne pourrait pas porter une jupe sachant que c'est un garçon hétérosexuel, pourquoi associer la féminité à l'homosexualité, quoi, obligatoirement. On écrit tous, mais je veux dire, ça s'écrit naturellement. Ensuite, il y a quand même Karine Fourcy, la metteur en scène, qui quand même écrit ce texte, parce qu'il y a aussi une façon scénique de le jouer. On porte notre propre parole, mais... Il y a quand même une vraie écriture, un vrai texte. Et voilà, on encadrait aussi avec Karine Fourcy, qui est la metteur en scène, et qui écrit ses textes également.
Avec Karine, on réfléchissait, puis on s'est dit pourquoi pas aller à la rencontre d'une femme. Et donc, je suis allée rencontrer la maman d'enfant dont je m'occupais. Et ça a été quand même un pas pour moi, parce que c'était une femme avec qui je ne discutais pas, parce qu'on ne parlait pas la même langue. Et j'étais très intimidée parce que c'était une re-rencontre en quelque sorte, parce qu'au final, je ne la connaissais pas du tout. Et après ces questions qu'on lui a posées, c'est devenu quelqu'un d'autre pour moi. Et
pourquoi ? Parce que tu as touché à son réel, justement.
Oui, voilà, j'ai touché à son réel, j'ai touché à ce qu'elle était, elle, en tant que femme, et à ce qu'elle pensait vraiment. Et on avait une interprète avec nous, donc elle a vraiment pu parler et dire ce qu'elle pensait. C'est une personne, à la base je la vois en tant que mère, mais en fait c'est une femme et c'est quelqu'un à part entière.
Aujourd'hui encore, quand je baigne dans l'eau...
Moi je parle de la vieillesse, qui est... on va tous y passer. Et donc c'est un peu comme Marie, le processus, c'est-à-dire que Karine se posait la question de qu'est-ce que j'avais envie de dire et qu'est-ce qu'on avait envie de dire dans cette pièce, et il se trouve que j'habite dans une maison de retraite et que pour moi, c'est évident. Enfin, la vieillesse, elle est évidente, elle est là. Tout comme la mort. Mes parents travaillent dans une maison de retraite, donc j'entends des morts, tout ça. Et c'est pas évident pour tout le monde. Et moi, je m'en rendais pas compte. Et donc, du coup, Karine m'a demandé d'y penser. Et il se trouve que dans cette maison de retraite, il y a une dame que j'aime beaucoup et avec qui je parle beaucoup et qui a une vie assez incroyable. Et il se trouve que dans sa chambre, c'est dans mon texte, j'en parle, dans sa chambre, il y a des sculptures, il y a des photos, il y a il y a une lettre écrite en japonais qu'elle avait écrite elle-même, par exemple, dans les années 40. Donc je parle aussi du fait que une personne vieille, elle a aussi vécu, et même si elle est vieille, elle a quand même des trucs à vivre. Et là, c'est pas une fin en soi, la vieillesse.
En tout cas, le truc, c'est que c'est une écriture du réel, certes, où on porte des paroles qui sont personnelles ou qui émanent d'autres personnes et qui ont du sens pour nous, parce qu'on ne peut pas porter une parole qui est trop loin de nous. Mais il y a quand même une distance qui va être faite pour la rendre universelle, cette parole. Parce que ce n'est pas le fait de raconter son histoire sur scène qui est important. C'est justement permettre de toucher des gens. Et ça passe par un travail de plateau, une réécriture qui est faite par Karine. Donc voilà.
Le spectacle est repris le 28 mars au Théâtre de Fontblanche à Vitrolles. Il y a le site de Théâtre de Fontblanche, il faut se dépêcher parce que c'est quasiment complet.
Journal de bord, Biennale des écritures du réel, 13 mars, 12 avril. Voir le monde avec les yeux
des autres. Voir le monde
avec tes yeux.
Avec les yeux.
Prolongé d'un rien, journal de bord d'un quartier créatif de Marseille-Provence 2013.
Car je sais déjà que les structures sociales, passé l'enthousiasme consensuel des débuts, nous serons un temps hostile. Nous n'encadrons pas, nous n'enseignons pas, nous ne faisons pas la morale, nous ne transmettons pas de message, nous n'avons pas d'utilité autre que notre essentielle inutilité. Et très prosaïquement, nos ateliers sont gratuits. Nous ne dépendons pas d'une quantité de public pour obtenir des budgets grand luxe. Et puis, ce n'est pas facile de voir d'emblée ce que nous allons faire. D'ailleurs, nous l'ignorons nous-mêmes.
Prolongé d'un rien, journal de bord d'un quartier créatif, de Marseille-Provence 2013. 2011, 2013. Deux années durant, accompagné de cinéastes, de danseurs, de photographes, de peintres, Martine Derain a habité la cité de l'Abeille à La Ciotat. Habité, aux deux sens que possède ce terme. Dans son sens premier, concret, qui a affaire avec la vie matérielle des êtres, même si bien vite s'y mêle de l'affect, de l'intime, des histoires privées, et qui signifie occuper un lieu physiquement, y demeurer, y séjourner, pour y dormir, y manger, y travailler, peut-être y vivre. Dans son sens second et figuré, qui regarde le premier, inversé comme un miroir, ou plutôt passé de l'autre côté du miroir, puisqu'il ne concerne plus la vie matérielle et que le corps s'y fait esprit de pensée. On dit qu'un esprit habite un lieu ou qu'une pensée nous habite, nous emplit, nous hante. Habiter l'abeille, c'est ainsi que l'on décrira l'action menée par Martine Derain et les autres artistes qui l'ont accompagnée au cours des deux années pleines qu'elle y a passées. Habiter, au point que chacun des membres de toute cette petite troupe, après avoir fait corps avec la cité, semble être devenu en quelque sorte une part de l'esprit du lieu, ou plus exactement, avoir réveillé l'esprit du lieu. Quelque chose s'est passé à la cité de l'Abeille, qui est de l'ordre d'un envoûtement. Certainement, on pourrait raconter ce passage tout autrement, et le récit que l'on en ferait n'en serait pas moins juste. On pourrait le dire comme une histoire de rencontre, rencontre entre des hommes et du bâti, entre des hommes et d'autres hommes, entre des artistes et des citoyens, entre des histoires individuelles et la grande histoire, donnant lieu à des expériences, à un vécu, lequel, à son tour, a engendré des paroles, des récits, des gestes, des échanges de regards et de vues. On pourrait également la raconter comme un acte politique. Il ne serait plus question alors d'artistes et de citoyens, mais de la constitution d'un collectif, d'une articulation entre les différentes histoires ou rêves des uns et des autres, de la réappropriation de l'espace public et de l'histoire d'une collectivité, celle de la population résidant à la cité de l'abeille, à la Ciotat, et de la construction d'un espace commun au sein de cet espace public réinvesti par les récits, les gestes, les histoires, de tous et de tout un chacun. Extrait de Plongée de rien, texte de Marianne Dautré, extrait du journal de bord d'un quartier créatif de Marseille-Provence 2013, journal de bord publié aux éditions communes. C'est la lecture de ce journal qui a suscité le désir d'une conversation avec Martine Derain. Revenir avec elle et Jean-François Néplaz, cinéaste complice de cette aventure longue de 2 ans à la Cité des Abeilles, à la Ciotat. Ils ont accepté l'invitation, ils sont avec nous dans les studios et je les en remercie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Une émission aussi à l'occasion d'une journée de rencontre et de projection qui aura lieu samedi 29 mars à partir de 11h au Centre Social et Culturel d'El Rio, un temps de partage dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. Pour préparer cette émission, vous m'avez proposé, Martine Derain, Jean-François Néplaz, de visionner 2 films, Si elle tombait et De loin en loin. Chacun de ces films proposant un dialogue avec une mémoire de la cité L'Abeille à la Ciotat, mémoire proche, vive, ou mémoire plus lointaine, oubliée. Alors je vous propose de commencer avec ce film « Si elle tombait ». Un film dansé, une danse filmée, probablement une danse de la compagnie Ex Nihilo qui vous a accompagné tout le long de cette présence dans la cité L'Abeille. Et puis dans le film s'ouvre une conversation avec des images d'archives. Dans ces images d'archives, il y a cette annotation « Chantier naval ». Piqué de grève, 24 décembre 1991. Et puis, une autre annotation qui a retenu mon attention, 4e année d'occupation. C'est donc que cette lutte au chantier naval à la Ciotat, 4 ans d'occupation, c'est beaucoup. Et que cela, j'imagine, doit beaucoup laisser de traces vives à la Ciotat et sans doute aussi à cette cité, L'Abeille, que vous connaissez maintenant. Jean-François Néplaz, peut-être.
Oui, c'était plus que ça, même, puisque ça a été enregistré pour la 4e année, mais ça a continué après. Ça représente, je crois, ça représentait à peu près 8 ans de lutte intense, qui sont un passé récent, un peu oublié. Je pense que des fois, il vaut mieux oublier pour pouvoir tourner certaines pages, mais qui ne sont pas oubliées dans les corps, au fond des êtres, qui sont extrêmement présents, sans être plus parlés directement, sans être plus parlés même. Et la cité dans laquelle on intervenait, c'est une cité qui était la cité du chantier naval. Hein, c'était les ouvriers du chantier qui l'habitaient. Certains bâtiments étaient habités à 90% par des salariés du chantier. Ce qui fait que le jour où le chantier ferme, c'est complètement la vie d'un quartier qui est saisi. Voilà. Donc ça, c'était la chose qu'on ne pouvait pas filmer aujourd'hui. Ce silence, cette histoire. Donc je suis allé chercher des rushs que j'avais fait. Des images et des sons que j'avais réalisés à cette occasion, un jour où j'étais venu voir, je n'étais pas à Marseille à l'époque, j'étais à Grenoble, j'étais venu voir ce qui se passait là, qui me paraissait quelque chose de terrible, mais que je voulais voir par moi-même.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce film, Si elle tombait. Nous sommes donc le 24 décembre 1991, quelques ouvriers sont réunis, tiennent l'occupation cette nuit du 24 décembre 91 et s'ouvre une discussion entre eux.
Lorsqu'on parle au nom du droit, souvent, comme on le fait, comme les politiques le font, en disant c'est notre droit, nous devons licencier pour la survie de l'entreprise, ces gens-là ne sont jamais en conséquence. Ils n'y sont jamais. Et lorsqu'on leur balance ça à la figure, ils nous traitent de misérabilistes. C'est ça qui est fou. Vous faites du sentimentalisme. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent des suicidés? Les gens qui ont divorcé, les gens. Ils disent oui, bien sûr, c'est terrible.
La mésentente, la part des sans-parts, cette part des sans-parts, les incomptés, ceux qui ne comptent pour rien, qui ne feraient que du bruit, finalement discutent dans ce film, Jean-François Neplaz. Est-ce que dans ce... J'ai l'impression que dans ce moment que vous avez passé, ce long moment, ces deux années à la cité Les Abeilles, c'était aussi un moment pour... que la parole, non, la parole là qu'on entend des ouvriers, mais la parole des habitants, sans doute, puisse enfin compter dans le mécompte. Martine Derain, peut-être.
C'était un bout du texte de Rancière, hein, c'est ça?
Oui.
Bon, moi, je pense qu'elle compte, hein, la parole. Ce qui s'est passé là, on appelle ce... Quand on parle maintenant, on parle de prolonger d'un rien, c'est le titre du livre. Effectivement, nous avons prolongé de nos gestes artistiques ce qui était dans la cité. Donc oui, la parole est là, elle est... Ça n'appartient à personne, je crois, disait Deligny. Ça passe par les gens. Il se trouve qu'à un moment, cette parole nous a croisés. Et autant que nous avons pu faire entendre aussi ce qu'on faisait. Enfin, moi, je suis dans un dialogue avec les habitants de l'Abeille. Bon, pour certains, sont maintenant des gens quand même qui sont, je ne dirais pas des amis, mais enfin des complices aussi, puisque je dérive, hein, puisque nous allons pouvoir continuer un petit peu à travailler là-bas, l'expérience du quartier créatif ayant donné envie à beaucoup de monde continuer un geste de création, continuer une aventure ensemble. Donc, c'est quelque chose qui va se poursuivre aussi, voilà ça. Donc j'imagine que la qualité du dialogue que nous avons eu le permet. J'avais ce matin un très beau message de Jean-Marie Gilson, dont le bâtiment dans lequel il a vécu va être démoli sous peu. Enfin, voilà, ces liens-là qui sont des liens poétiques, est-ce que c'est la parole? Je ne sais pas, enfin, pour l'instant.
Et cette parole-là qu'on entend dans le film, de cet ouvrier qui dit « mais... finalement, ils sont sans conséquence, on nous oublie, quoi. Enfin, finalement, notre vie n'a pas d'importance. » Est-ce que c'est une parole que vous avez aussi entendue, vous, lorsque vous êtes allé à la rencontre, dire, mais, de personnes qui disent, mais on nous, notre parole n'a pas d'importance, et même de sans doute de douter qu'elle puisse avoir une importance, même à travers ce dispositif de quartier créatif?
Je vais peut-être buter sur un mot. Je vais buter sur le mot parole. On a, par exemple, dans les extraits que vous avez passés, il y a beaucoup de sons. Et c'est tout autant par là que passe l'expression de ce qui... Enfin, la création qui s'est déroulée là-bas ne passe pas que par la parole. D'ailleurs, parce que la parole, il y a danger à cet endroit-là. Par exemple, l'extrait que vous avez choisi, c'est le moment où ils parlent de leurs conditions de licenciés, ce moment de destruction du tissu industriel qu'ont été ces années-là, ces années 80-90, et du sort qui leur est fait. Mais le reste de la soirée, ils l'ont passé à parler d'art. Ils l'ont passé en parlant d'opéra, en parlant de cinéma, en parlant de cinéma de façon particulière, comme on peut en parler à La Ciotat, c'est-à-dire en parlant de Michel Simon, qu'ils ont croisé, dont ils parlent à la fois des films et tel qu'il est dans la vie, c'est-à-dire qu'ils parlent de l'écart entre la vie vécue et le cinéma. C'est-à-dire que leur parole n'est pas à l'endroit où on l'attend. Et c'est pour moi, ça qui est intéressant. Et par ailleurs, ils sont Pour moi aussi, à cet endroit-là, si le film est monté entre des danseurs et ces ouvriers, c'est aussi parce qu'ils existent très fort à travers des gestes. Ils ont une présence incroyable avec des gestes minimums, mais des gestes de la main, des gestes du visage. Bon, voilà. C'est l'ensemble de cette présence qui est, pour moi, refusée. C'est l'ensemble de ce qu'ils sont. Si on les accepte comme chômeurs, on les accepte comme licenciés, on les accepte comme victimes, comme gens détruits. On ne les regarde pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la sève vive d'un pays.
Et effectivement, il y a cette conversation qu'ils ont sur l'opéra, sur le cinéma et sur la discussion entre le cinéma noir et blanc et la colorisation de certains films. Et effectivement, c'est une discussion auquel on ne s'y attendrait pas, normalement, qui apparaît comme une discussion qu'on dirait déplacée, quoi, d'une certaine manière. Et dans ce prolongé d'un rien, dans ce journal de bord d'un quartier créatif, dans ce bel ouvrage fait de textes, de témoignages, de photos, 500 pages, vous ouvrez par une sorte de petite description de cette cité l'Abeille et vous dites: nous sommes pris entre deux temporalités, d'un côté le désir de changement et puis de l'autre côté un temps comme arrêté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cela, sur ce temps arrêté, qui sans doute serait ce temps arrêté de la fin des chantiers navals, voilà, ces chantiers qui s'arrêtent, comme le temps qui s'arrête, et puis le désir de changement, c'est-à-dire sans doute de passer à autre chose, et évidemment, la cité l'Abeille, c'est au moment où c'est en rénovation urbaine, c'est-à-dire les chantiers.
Oui, sur le temps arrêté. Effectivement, quelque chose, vous avez dit là tout à l'heure, déplacé dans la parole, cette parole sur l'art, comme si elle était déplacée. Alors, il y a quelque chose de très étonnant à l'Abeille, qui est peut-être déplacé aussi, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est toujours en vacances. Il y a quelque chose de l'ordre des vacances à l'Abeille, il y a quelque chose de l'ordre du voyage qui est tout à fait inattendu dans une cité. On voit très peu de gens partir au travail, ou du moins peut-être qu'on n'était pas toujours aux bonnes heures. On voit, somme toute, peu d'activités, voilà. Et c'est un temps arrêté ou c'est un temps qui échappe ou c'est un temps où on ne sait pas où sont ni ce que font les gens. C'est assez curieux et quand j'y retourne aujourd'hui, c'est toujours le même sentiment. Alors que la cité est en train de changer malgré tout. Hein, quelques habitants sont en train de déménager et quelque chose d'une grande, grande discrétion en fait.
Cette cité, l'Abeille, fait l'objet d'une rénovation urbaine depuis maintenant plusieurs années. Et Martine Derain, on peut lire ceci: vous avez participé, vous avez suivi les réunions techniques sur ce plan de rénovation urbaine, vous avez sans doute assisté au moment de concertation avec les habitants, et puis vous écrivez ceci, que vous avez adopté la méthode de John Cage, une méthode qui dit « Une chose profondément ennuyeuse, regardée suffisamment longtemps, devient passionnante. »
C'est certain qu'il vaut mieux commencer avec cette phrase en tête quand on commence la journée dans un comité technique de réhabilitation, parce que ce que je décrivais là dans cette note de juillet, je crois, où c'est effectivement cette immense chose grise qu'est l'administration française, qui est tout à fait passionnante, hein, et que moi je voyais comme un théâtre. Donc je sais gré à Centre-Ville pour tous, cette association de militants avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, de m'avoir formée et à cette pensée administrative et puis au vocabulaire qui va avec, bien sûr. Hein. Donc c'était vraiment tout à fait, effectivement, passionnant, parce que c'est comment marche une ville, hein, on est en direct. Donc voilà, les combats, les batailles, l'argent, enfin c'est tout à fait intéressant, avec ce très joli moment, très joyeux, et le seul, je pense, où c'était comment démolir. Donc ce sont des gens qui passent leur temps à construire des villes, et puis
Voilà, d'un seul coup, ça s'est ouvert sur comment va-t-on démolir ce vieux bâtiment. Donc, les propositions fusaient, l'exploser, le grignoter, faire les deux en même temps, envoyer la boule, enfin, faire un feu d'artifice, etc. Et là, je me suis dit, il y a un petit peu de folie quand même là dans cette histoire. Et ça me renvoyait à ce qu'on était en train de faire aussi avec les habitants où nous avons, plutôt que sur leur recueil de paroles ou c'est une parole dite sur leur situation vécue, difficile, etc. On a travaillé sur quelque chose qui sont les folies douces des habitants, c'est-à-dire là où ils sont dans la création. La mission de Marseille-Provence 2013, c'était aussi de proposer des créations ou un rapport à l'art dans des quartiers où il n'y a ni structure culturelle ni artistique, où il n'y a pas eu d'artistes ou très peu. Et on s'est retrouvés face à des gens qui avaient forcément, je dirais évidemment, un rapport à la création. Donc c'est cet endroit-là que nous avons cheminé ensemble avec des habitants qui nous ont mis... je dirais, la barre assez haut en termes de création tout au long des pages et des films. On croise Giuseppe Sacchi, qui vient de déménager. Là, il a 91 ans, il vient d'être déménagé. C'est un personnage absolument fabuleux et au vrai sens du terme, puisqu'il est Zeus dans une des fictions de l'atelier collectif Film Flamme proposé par Raphaël Popperborn. Donc il est Zeus, et il est Zeus ou Chronos, parce que évidemment, il a un rapport au temps avec ses 90 ans. et puis un rapport au temps très singulier aussi, oui, qui lui appartient. Voilà, on était avec des habitants. Je dirais qu'on était dans un rapport de création.
Et aussi, j'imagine que passionnante aussi, parce que petit à petit, vous parlez d'un immeuble qui va être détruit et vous découvrez un déjà-vu. Déjà là, vous vous surprenez d'avoir déjà vu cet immeuble qui va être détruit à la Cité de l'Abeille. Un immeuble que vous avez déjà vu ailleurs, pas à la Cité des Abeilles, sans doute en photographie ou dans l'un de vos voyages à Casablanca.
Quand je suis arrivée ici, c'est sans doute que j'étais invitée par nos commanditaires pour mon goût des maisons du chez-soi, en fait, des maisons des gens. Quand je suis arrivée là, bien sûr, je me suis demandé ce qu'on démolissait, puisqu'on est dans un plan en rue et que la solution est la démolition. Qu'est-ce qu'on détruit ici? Sinon du logement populaire. Et j'ai regardé ce bâtiment qui m'a tout de suite fait penser à Casablanca. Alors je pensais me souvenir de l'immeuble et en fait pas du tout. Je me souvenais de la photographie d'un immeuble, uniquement, d'un vieux bâtiment des années 50. C'était une intuition, en fait. Hein. Je n'avais pas plus de connaissances dessus, et très peu sur l'architecte, d'ailleurs. Simplement, j'ai cherché à confirmer ou vérifier cette intuition, en tout cas. Quand on m'a dit qu'on démolissait ce bâtiment, je suis simplement allée chercher... aux archives de la ville, c'est-à-dire que l'ANRU, c'est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, dit « on démolit », mais personne ne savait exactement ce qui était démoli. Donc je suis allée voir et c'était donc Candilis. Candilis, c'est pas un petit architecte, c'est quelqu'un qui a poussé très loin la réflexion sur l'architecture et c'est très contemporain. Alors je me suis dit « on démolit précisément aujourd'hui ce qui peut faire valeur ». Dans les quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on stigmatise le logement des travailleurs, tout simplement, et puis au moment où cette architecture est réhabilitée, on la démolit. C'est-à-dire là où on peut faire valeur, patrimoine, histoire, récit, ancrage, c'est là qu'on dit mais c'est très nul là où vous vivez, donc on le rase et vous aurez mieux, et vous aurez aujourd'hui du lotissement, etc. Donc je disais en commençant mon goût pour les maisons et mon goût pour les batailles. Et c'est une bataille d'essayer de s'attacher à inventer, parce qu'on doit l'inventer, une histoire des quartiers populaires. Et moi, ce qui me plaît, c'est la maison. Où est-ce qu'on habite? Comment on bricole cette maison? Comment on finit par habiter un lieu?
De loin en loin, ou s'éloigner pour s'approcher, Martine Derain, faites ce détour donc à Casablanca, à la recherche de... de cet immeuble, de ce déjà vu, de ce déjà connu. Et là, vous découvrez tout de même que finalement, l'abeille à La Ciotat est traversée par les fantômes de l'Afrique. Vous vous apercevez que vous êtes face à un architecte qui n'est pas n'importe quel architecte et qui a aussi une certaine idée de l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous raconter le périple? Comment vous vous mettez à aller fouiller dans les archives de cet architecte et comment cela se met à rentrer en discussion avec ce qui se passe à ce moment-là à La Ciotat, à la Cité de l'Abeille?
Oui, alors en fait, on s'est tous inventé des histoires, hein, à l'Abeille. C'est une cité qui offre un beau voyage. C'est ce que nous avons tous vécu, ce sentiment d'un beau voyage. Alors c'est vrai que le souvenir en arrivant, je crois que c'est le premier jour où je suis arrivée à l'Abeille en juin 2011, où je me dis, bon, je vois la structure et je me dis, ça me rappelle effectivement Casa. Et c'était ma façon aussi à moi de m'inventer mon histoire, hein, à l'Abeille, c'est de relier ce qu'on allait travailler avec les fils anciens de mes histoires marocaines. Voilà, donc effectivement, c'est une chance que d'arriver dans une cité où on a, je dis très vite Candilis, en oubliant à ce moment-là de parler des autres, Josic et Woods, qui sont ses associés. Sont effectivement des gens qui appartenaient au groupe Team Ten en architecture, qui sont à la fois des gens formés par Le Corbusier et puis qui ont un désir à l'époque, ils sont jeunes, de s'émanciper de cette tutelle envahissante. Donc ils vont partir en Afrique, quand même dans l'atelier des bâtisseurs, et puis fondé par Le Corbusier, se retrouver à Casablanca. Et alors là, le protectorat français, par la voix de Michel Écochard, urbaniste de Casa, leur demande de penser à du logement collectif pour les habitants des bidonvilles de Casa, et notamment de Carrière Centrale. Et l'équipe, je ne sais pas s'il y avait Josic à l'époque, mais peu importe, ils le prennent ensemble. Ensuite, avec eux, va poser les deux prototypes, hein, de deux bâtiments qui sont toujours, évidemment, là, à Casablanca, entretenus, puisqu'à notre différence, il y a peut-être moins d'argent à Casa, donc on ne démolit pas du logement populaire ici. On pense qu'on a trop d'argent, donc on le démolit, voilà. Donc c'était pour moi aussi faire résonner un rapport à la maison complètement différent, parce que à Casablanca, tout le monde était horrifié parce que le bâtiment était entièrement transformé par ses habitants. Je dirais physiquement, c'est magnifique.
Oui, ça, il faut en parler, voilà. Tout de même, parce que c'est ce que quand vous allez tout de même à la recherche de ce bâtiment, et ça demande tout un travail d'enquête. Je crois que vous aimez particulièrement, vous dites la vraie joie, c'est dans l'enquête, c'est dans la recherche. C'est pas tant dans le moment où on trouve, plus que la recherche. Et donc, vous partez en expédition, et ce film de loin en loin témoigne finalement de cette expédition, de ce voyage, et vous découvrez ce bâtiment qui effectivement se retrouve totalement transformé.
Voilà, alors c'est même Jean-François qui l'a vu le premier, parce qu'on avait la trame comme ça du bâtiment, mais sa transformation le rend à peine reconnaissable. On reconnaît quand même pas mal de choses.
Transformation par les habitants
eux-mêmes. Bah oui, ils n'avaient pas de code de l'urbanisme réellement. Et puis surtout, l'État ne répondant pas aux besoins des habitants, ils se sont débrouillés eux-mêmes. Hein. Voilà, donc c'est aussi tout un autre rapport. Ça pose des difficultés, hein, ces transformations, de toute façon, mais il n'empêche que les gens vivent toujours dedans et que ça reste une solution.
Et vous continuez à vous intéresser à la vie de cet architecte et vous découvrez qu'il est parti au Pérou.
Ah oui, mais ça aussi, ça fait partie de mon histoire inventée, parce que je trouvais très beau qu'il, dans son autobiographie, où lui-même s'invente des histoires, finisse par dire que le plus beau moment de sa vie d'homme et d'architecte, c'est au Pérou, quand il se met à l'école des paysans péruviens qui occupent des terres, sont des paysans sans terre, je ne sais pas si on disait ça, et on disait invasion à l'époque, envahissent des terres pour se construire des villes et des maisons, et se retrouve fasciné à voir des villes naître, créées par des paysans. Il avait commencé sa vie en étudiant une maison de paysans en Grèce. Voilà, donc c'est toute cette histoire qui, moi, nous emmène loin, nous fait croiser ce qui se passe, et puis c'est une fiction aussi.
Pas tant que ça, car ce sont aussi des archives que vous trouvez tout de même.
Oui, c'est aller chercher au fond, parce que, par exemple, cette période du Pérou,
comme il n'y a pas de bâtiment, ben, l'ensemble iconographique n'est pas numérisé. Je veux dire, les diapositives sont toutes pleines de poussière dans un sac. Et je comprends, hein, ce n'est pas une critique du centre d'architecture. C'est que ben, y a rien, voilà, mais il y a justement ce rien-là sur lequel on travaille, il est là. Donc voilà, c'était aussi...
Et finalement, que ce soit à Casablanca où les habitants se réapproprient cet immeuble, le transforment d'eux-mêmes, ou au Pérou où c'est de l'autoconstruction, hein, à ce à quoi on assiste et qui fascine cet architecte qui dit c'est là où se joue l'architecture. Enfin, je crois que c'est ce qu'il dit en substance. Et finalement, cela, vous le rapportez ensuite à si on le rapporte à la Ciotat, aux abeilles, ce que vous constatez, c'est que finalement, il y a très 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 peu de place comme marge de manœuvre pour les habitants, hein, soit leur capacité de transformer leur habitat, ou soit de l'inventer, ou de s'inventer leur manière d'habiter.
Oui, je crois que c'est valable pour l'abeille, et puis un peu pour nos villes, hein, où effectivement les espaces... Sont limités, voilà. Donc, par exemple, dans le Vieil Abeille, le premier bâtiment qui va être démoli, mais il y avait une dame qui s'était fait un petit jardin. Donc, il y a encore des petits jardins suspendus sur le haut de l'entrée. Voilà, c'est assez, effectivement, limité, hein, la création qu'on peut avoir sur son propre lieu de vie, quoi. C'est comme ça.
Dans ce projet de quartier créatif qui a donc duré 2 ans, vous avez proposé la réalisation de chroniques de l'abeille. J'imagine que ce sont des courts films, Jean-François Néplaz. Et vous nous dites ceci, vous écrivez ceci dans le prolongé d'Arien, dans ce journal de bord. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat est à la pliure exacte des deux pratiques des Lumières, le cinéma industriel... du rendement, du travail, et celui de la famille, de l'intime et des vacances. Alors, ces chroniques, où sont-elles ? Du côté de la pliure ou du côté de l'intime, des familles ?
On va dire que les chroniques, je rappelle le principe, on a laissé des caméras Super 8, c'est-à-dire la caméra, le format du film de famille d'autrefois, avant la vidéo, à disposition de tous ceux qui passaient là, habitaient un certain temps les lieux avec nous. Hein, qui voulaient prenaient cette caméra, tournaient des films. La condition, c'était qu'ensuite, il s'agissait de les sonoriser pour les diffuser sans autre prétention que de garder trace de cette entrée en gare de la Ciotat, hein, ou en gare de l'Abeille, en l'occurrence. Et bon, donc là, on va dire que c'est ouvertement du côté du film de famille. En même temps, on assume complètement, nous, dans notre travail de création, que le cinéma, en général, c'est tout ça. Le cinéma n'a pas de limites, pas de frontières. C'est pas le cinéma industriel qui nous raconte son histoire et qu'on raconte. C'est qu'un moment, ça n'aura été qu'un moment de l'histoire du cinéma, qu'un fragment de l'histoire du cinéma, même si pour l'instant, c'est le seul qui est distribué, qui est donné à entendre, y compris à la Ciotat d'ailleurs même. C'est une pitié de voir que dans la pédagogie du cinéma actuellement, dans la transmission du cinéma, on ne parle que du cinéma industriel. Il n'y a pas d'histoire du cinéma qui a été écrite. Il y a une impuissance terrible à écrire l'histoire du cinéma. Peut-être tant mieux d'ailleurs. Mais en tout cas, à la Ciotat, où cette chose a été inventée, on n'a pas du tout pris en compte cet aspect que le cinéma, c'était autre chose que l'industrie. Voilà. Ça fait partie de ce désert que nous, on constate dans la transmission, dans la pédagogie du cinéma, qui fait aujourd'hui que le cinéma est un endroit qu'on ne peut pas habiter. C'est un endroit sans usage. C'est un musée. Le cinéma est momifié, le cinéma industriel, il continue de se répliquer, de faire des copies de lui-même. Et un mal terrible à se renouveler, justement parce que cet autre visage du cinéma, ce visage que tout le monde peut investir, que tout le monde peut habiter, a été renié.
Vous n'êtes pas tout à fait dupe de là où Marseille 2013 vous a embarqué. Dans le journal de bord, vous écrivez ceci. « Car je sais déjà que les structures sociales, passé l'enthousiasme consensuel des débuts, nous serons un temps hostile. » Nous n'encadrons pas, nous n'enseignons pas, nous ne faisons pas la morale, nous ne transmettons pas de message, nous n'avons pas d'utilité autre que notre essentielle inutilité. Et, très prosaïquement, nos ateliers sont gratuits, nous ne dépendons pas d'une quantité de public pour obtenir des budgets grand luxe. Et puis, ce n'est pas facile de voir d'emblée ce que nous allons faire. D'ailleurs, nous l'ignorons nous-mêmes. Et autrement, par ailleurs, je crois que vous écrivez ceci, que il y a la mise en boîte dans la catégorie action sociale. Alors, est-ce que vous avez réussi à échapper à cette mise en boîte dans la catégorie action sociale ?
Oui. Oui, oui. Et ça nous ramène à cette histoire du langage. Je dis oui parce que le jour où nous avons projeté les films, c'est-à-dire en toute fin de Quartier Créatif, en novembre à l'Éden, pour moi, les responsables des institutions sociales qui étaient mes partenaires et qui le seront, hein, et qui ont été malgré tout des partenaires, m'ont fait le plus beau compliment en disant « on a perdu notre langage ». Pour parler des habitants, c'est-à-dire que les gens qu'on est censé aider, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont drôles, qui sont inventifs, qui jouent, qui s'amusent. Donc d'un seul coup, nous n'avons plus notre langage. Voilà.
Où habitent les hommes ? Palais, châteaux, résidences, hôtels particuliers, villas, maisons de maîtres, maisons de campagne, de paysans, d'ouvriers, maisons collectives, tours, appartements, rez-de-chaussée, étages, sous-sol, préfabriqués, pierres de taille, bois traditionnels, modernes, postmodernes, ascension, accession à la propriété, location, HLM, hôtel, squat, studio, atelier, mansarde, roulotte, baraque, taudis, bidon, igloo, hôpital, hospice, asile, monastère, caserne, prison, ruine, tente, boîte en carton, banc public, trottoir, cimetière, tombe. C'était une émission avec Martine Derain et Jean-François Néplaz. Merci à vous d'être venus.
Merci.
Pour
merci,
merci. Participer à ce prolongé d'un rien, journal de bord d'un quartier créatif de Marseille-Provence 2013. Un journal de bord publié aux éditions Communes. Je rappelle ce temps de rencontre avec avec les Marseillais et autres d'ailleurs, dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. C'est le 29 mars. Au Centre social et culturel d'El Rio, le 29 mars de 11h à 17h30, où on pourra y voir notamment le film De Loin en Loin, qui sera projeté à 15h, et on pourra venir à votre rencontre et discuter sur cette expérience de votre résidence ou de votre habitation à la cité L'Abeille de la Ciotat. Merci encore.
Merci, au revoir.
Au revoir. Biennale des Écritures du Réel, journal de bord, 13 mars, 12 avril 2014. Speak my name and speak it softly one more time before you go. Voir le monde avec les yeux
des autres.
Des tiens.
Voir le monde
avec tes yeux.
Avec les yeux. Avec les yeux.
Des autres. Beyond the dawn, love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and